Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour, nous sommes dans l'émission Cinérama avec aujourd'hui Robot, Contrariété, Retrouvailles, c'est un peu ça, la forme que va prendre cette émission. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et c'est toi qui vas parler des robots.
Bah oui, de Chappie.
Donc qui est sorti le 4 mars et que tu n'as pas franchement apprécié.
Non,
et
non,
en revanche, bien tu nous parleras aussi d'un Giallo à la fin de l'émission.
Oui, L'Emmurée vivante de Lucio Fulci.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de L'Art de la fugue de Brice Covin, petite comédie douce française. Et puis, eh bien, nous écouterons deux interviews. L'interview d'une réalisatrice, Alix Delaporte, pour Le Dernier Coup de Marteau. C'est un film qui a été tourné dans la région. Donc, c'est aussi un des intérêts du film, mais pas seulement, parce que c'est une vraie cinéaste, Alix Delaporte. Et puis, nous écouterons alors un film moins réussi, celui-ci, L'amour ne pardonne pas. Et nous écouterons l'actrice Ariane Ascaride. Voilà, qui joue dans un film italien. Et nous aurons l'occasion de jouer un blind test spécial robot à travers des extraits de films de robots. Vous devrez découvrir le titre, c'est Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Bienvenue dans l'univers de la comédie mélancolique avec L'Arc de la fugue de Brice Covin qui réunit un casting de premier choix. On entre dans un genre où le rire est discret, quoique disséminé dans toutes les séquences. C'est un peu tout le temps que nous pouvons rire, glousser, pouffer ou juste expulser un peu d'air de la bouche à demi fermée. Comédie mélancolique, disais-je, car nous sommes confrontés à des personnages ayant tous une difficulté à assumer. Alors commençons par Antoine, car il s'agit du personnage principal interprété par Laurent Lafitte. Excellent. Il vit avec Adar, mais il aimerait être avec Alexis, seulement il y a Gilbert, entre autres.
Tu joues quoi en ce moment, Romain ?
Oh, tu dois pas connaître. C'est du contemporain.
En fait, Romain, c'est plus son nom, c'est Zoltan.
C'est mon agent. Il a choisi un nom étranger. Ça crée un peu de mystère, et puis les gens s'en souviennent.
D'accord. Et c'était quoi ton nom avant, alors ?
Romain Romani.
Enfin, Romain Romani, c'était pas ton vrai nom non plus.
Ah bon ? Alors, c'est quoi ton vrai nom ?
Gilbert.
Vente de verte.
Oui.
Gilbert, vente de verte. Excuse-moi.
Puis comme il a deux frères, on peut parler de Gérard, interprété par Benjamin Biolay, qui s'est fait plaquer par Hélène, qui a beaucoup de mal à tourner la page, et à qui on veut refiler l'exubérante Ariel. Alors on se dit que vu les goûts musicaux de Gérard, c'est pas gagné.
On y va ?
Oh non, tu vas foutre de ma gueule.
Non, c'est pas dans mes habitudes. T'es ouverte comme Nana.
Celui que j'avais tant pour rien, qui chante les soirs matins. Un artiste égoïste qui tient ma vie dans sa main.
Bah, c'est pas mal, après, non, c'est bien.
Toi ?
Ouais, non, c'est.
Il nous reste un à faire la paix.
Voilà, c'est Gilbert Bécaud, puis juste avant, on va pas jouer un blind test musical, mais c'était Mireille Mathieu. Donc il y a aussi Louis, interprété par Nicolas Bedos, qui est amoureux de Mathilde alors qu'il va épouser Julie. Donc, nous avons trois frères qui sont perdus et qui n'ont qu'une idée, à la manière du personnage de Bartholby de Melville, c'est de s'abstenir de tout changement. Fuir leur responsabilité est un art qu'ils cultivent plus ou moins bien. Adapté du roman homonyme de l'écrivain américain Stephen McCauley, en plus de ces trois frères, L'Art de la fugue contient aussi son lot de personnages secondaires, tous radicalisés. La femme abandonnée, cocue et pleurée, le compagnon hyper ouvert aux errances de son amant, les parents intrusifs, une galerie de personnages qui apparaît et disparaît, mais parfois il faut bien admettre qu'on n'a pas envie d'en voir certains. C'est un problème. L'élan d'une séquence est parfois brisé par un jeu poussif et une mise en scène bien trop légère pour faire vivre ne serait-ce qu'une scène plutôt anxiogène, notamment une scène qui se déroule dans une chambre d'hôpital. Ça ne prend pas, les acteurs sont dans une sorte de récitation, alors pas toujours évidemment, mais suffisamment pour plomber une comédie qui pour certains détient sa propre musique, douce et légère, mais qui pour d'autres s'enlise à pousser les mêmes notes.
Pourquoi vous viendriez pas tous travailler à la boutique avec nous ? Ça serait bien.
Arrête avec ça, maman. De toute façon, il n'y a presque plus de clients. Alors.
Peut-être, mais ils sont fidèles.
Fidèles par leur absence ? Pourquoi vous vendez pas ? Vous pourriez faire une bonne affaire.
Ça sera pas nécessaire, ton père a l'intention de tout refaire.
Arrête, Maman, papa, il dit ça depuis 30 ans.
Ton père a décidé de se mettre au Gucci Dolce Gabbana.
Gabbana, maman.
Tu sais, avec la proximité du Stade de France, vendre des fringues de luxe, c'est pas gagné.
Non, surtout qu'il peut marcher ici, c'est des fringues de sport.
J'imagine pas trop papa et maman à la tête d'un footlocker.
Voilà, on entend le petit côté film français. Si l'on ose comparer les deux comédies dans lesquelles on retrouve Laurent Lafitte, hein, Papa ou Maman, encore à l'affiche et L'Art de la Fugue, et bien outre que le sujet de Papa ou Maman apparaît plus futile que celui de L'Art de la Fugue, le potentiel comique est au moins révélé. Mais si vous préférez voir le comédien dans une comédie dramatique, alors vous pourriez apprécier cet Art de la Fugue avec néanmoins des dialogues qui sont plutôt bien écrits. Voilà. Et à noter aussi Élodie Frégé, qui était une gagnante de Starac, qu'on voit apparaître à quelques moments, et elle apparaît aussi nue. Voilà, un spoiler. Voilà, c'est parti. C'est Cinérama.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Voilà. Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Et voici le moment d'écouter Alix Delaporte, la réalisatrice du Dernier coup de marteau, enfin le Dernier coup de marteau, avec Romain Paul, qui est un jeune acteur de la région de Montpellier, Clotilde M et Grégory Gadebois. Quand Viteur, 13 ans, pousse la porte de l'Opéra de Montpellier, il ne connaît rien à la musique, il ne connaît pas non plus son père venu diriger la 6e symphonie de Mahler. Alors il va observer les répétitions une fois, puis une autre fois, et puis encore une fois, il observe de loin. Et le jour où Nadia, sa mère, lui annonce qu'ils doivent quitter leur maison sur la plage, eh bien Viteur s'inquiète, pour sa mère d'abord, qui est malade, mais aussi pour sa relation naissante avec Luna, la voisine espagnole. Viteur décide alors de se montrer pour la première fois à son père. C'est tourné dans la région de Bouduc à Montpellier. Le Dernier coup de marteau va à un rythme lent mais certain. Alix Delaporte confronte un fils à son père en se passant au mieux des mots, en convoquant des figures cinématographiques et puis des contrastes. On écoute la réalisatrice.
Je viens voir mon père.
Comment tu t'appelles ?
Viteur. Ma mère, c'est Nadia.
Tu as quel âge ?
13 ans. Enfin, 14 bientôt.
Je n'ai pas d'enfant.
Je n'ai pas un adolescent buté, rebelle, querelleur, mais un adolescent extrêmement doux et qui a plutôt, c'est plutôt l'inverse, c'est pas quelqu'un qui est dur et qui va s'adoucir, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion pour sa mère, beaucoup d'envie de retrouver son père, mais pas en colère en fait, plutôt avec l'envie de le découvrir et en se sentant pas du tout furieux contre lui, mais plutôt se disant est-ce qu'il va vouloir de moi en fait. Et c'est peut-être ça qui m'a influencé dans ce film de Sidney Lumet, c'est-à-dire c'est vraiment un adolescent qui va essayer de gagner la confiance en lui pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir trouver sa place et s'imposer.
Il a dit quoi le médecin ?
Il arrête le traitement pour voir comment je me débrouille.
Il arrête tout. On va le voir, le chef.
Il y en a qui acceptent qu'on assiste aux répétitions, mais lui, il va voir personne.
Il n'attend pas 10 ans pour dire à quelqu'un qu'il a un enfant.
Maintenant qu'il est là, t'attends quoi ? Qu'il reparte à l'étranger ?
Plus doux. On peut demander à ce gamin ce qu'il fait, là.
Je trouve ça très agréable d'accumuler les sentiments et au fur et à mesure de l'histoire, et puis qu'ils explosent tout d'un coup, mais pas tout de suite, en fait. Je trouve que c'est une façon de nourrir les personnages et le spectateur avec, et puis pour donner la place à quelque chose qui arrive plus tard. Mais la pudeur, la retenue des gens, je pense que c'est lié à mon envie de cinéma, c'est-à-dire que je trouve que les mots, si on peut les remplacer par des actions, c'est mieux, en fait. Et c'est ça, quand même, la recherche dans laquelle je crois que je suis. C'est vraiment ne pas donner des tonnes de textes aux acteurs qui pourraient être un peu explicatifs ou qui sont censés remplacer les failles du scénario et donner des informations qu'on n'arrivera pas à donner autrement qu'en les mettant dans les dialogues. Et je trouve que la recherche et le travail sur le scénario, c'est vraiment de remplacer ça, de mettre des images à la place des mots.
On va aller où ?
Chez mes parents.
À Chalon ? Pourquoi vous êtes revenu ? Pour me voir ?
J'ai pas d'enfant, ça résume tout. J'ai pas d'enfant, ça veut dire je suis incapable de mettre des mots sur notre relation. Je suis incapable de m'exprimer. Et c'est une façon très maladroite, mais j'ai pas d'enfant. Pour moi, c'était pas méchant. C'était une façon de dire là, tout de suite, il y a une impossibilité pour moi de communiquer avec toi, point.
Tu seras bien content de l'avoir là-bas.
Où ça là-bas ?
Je pense que mes films, ils demandent du travail un peu au spectateur. Ça demande, voilà, et ça demande une autonomie de pensée. Mais ça vient du fait que J'ai quand même une grande confiance dans le spectateur. Et ça veut pas dire que ça marchera à tous les coups. Pour tout le monde.
Tu fais ce que tu veux avec lui. Et tu le fais pas venir ici.
J'ai l'impression que le film est plus sur comment on laisse partir nos enfants. Comment on les laisse, on leur donne l'autonomie. Parce que c'est très facile en fait de garder ses enfants près de soi et de les rendre dépendants. En fait ça on peut très bien le faire. Hein. On se rend compte que... Et puis c'est aussi facile de les pousser à l'extérieur. Et... Parce que les enfants qui nous aiment et qui ont besoin de nous, c'est très agréable. Mais au fond, c'est pas... Donc c'est plus ça, c'est comment on coupe le lien, comment on... La maladie, si vous regardez bien, j'en parle jamais.
Elle est présente tout le temps.
Ouais, elle est présente tout le temps. Mais c'est l'idée de la fin, en fait. C'est pas l'idée de la mort, c'est l'idée de la fin d'un lien, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à couper ce lien qui est si fort entre une mère et son fils, notamment parce qu'ils ont, ils ont été ensemble sans père et tout ça.
Pour ressentir des choses avec la musique, t'as pas forcément besoin de t'y connaître. Tu fermes les yeux et tu commences à voir. Je sais pas, mais de l'eau, une forêt, des enfants qui passent. Ça te rend triste, gai. Ça te donne envie de bouger les montagnes.
Grégory Gadebois, le père qui est en train de faire son petit discours à son fils qu'il n'a pas revu depuis des années. Son fils qui se tape le foot. Voilà, c'est le dernier coup de marteau d'Alix Delaporte. Et nous passons maintenant, avant de retrouver le blind test spécial robot à Chappie.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Alors j'aurais tellement aimé dire Chapeau, en hommage à la fameuse série d'animation Chappie Chapeau, créée en 1974 et dont la musique était de François Deroubet.
Ah.
Voilà, c'est pour ça que tu m'en parlais la semaine dernière.
Grand compositeur de musique, on le rappelle.
Mais hélas, trois fois hélas, ce n'est pas Chapeau que je vais dire, mais Sharpie. Car vraiment, le nouveau film de Neil Blomkamp est un véritable massacre, une aberration filmique difficilement supportable pour les plus de 12 ans. Alors soit j'ai perdu mon âme d'enfant, ce qui n'est pas à négliger, soit la production hollywoodienne en termes de blockbuster, s'avère de plus en plus décevante et opère un vrai nivellement par le bas. Alors déjà, dans Jupiter, remake déguisé de Matrix, les Wachowski revoyaient leur ambition à la baisse sans pour autant renier leur folie visuelle. Mais en termes de narration, leur space opéra n'était rien d'autre qu'un Matrix pour les nuls. Alors c'est un peu la même trajectoire qui affecte aujourd'hui le parcours de Neil Blomkamp. Blomkamp, j'ai un peu du mal, c'est comme ça qu'on le dit, mais propulsé dès son premier opus au devant de la scène et considéré comme le nouveau petit génie de l'ASF. Alors District 9, hein, en dépit d'une mise en scène parfois à l'esbrouf, était un film passionnant en fait, un passionnant film de SF, souvent pertinent et traversé par une satire sociale pertinente à défaut d'être toujours subtile. Alors doté d'un budget de 100 millions de dollars, Elysium a déçu. Alors sa parabole politique sur la lutte des classes n'a pas convaincu malgré quelques scènes d'action bien emballées. Avec Chappie, le Sud-Africain continue sur sa lancée, mettant un écart du côté de l'univers de Spielberg, voire de Wall-E, un des meilleurs Pixar. Et surtout s'écarte de la grosse machinerie hollywoodienne pour revenir, on va dire, à un esprit plus bricolé et artisanal. Alors le sujet, en 2035, hein, la population encadrée et ou opprimée par une police entièrement robotisée commence à se rebeller en bande organisée, ce qui nous vaut quelques séquences grotesques, tout droit sorti d'un post-nuke, hein, film post-apocalyptique italien, genre Les Nouveaux Barbares ou Les Guerriers du Bronx. Hein, c'était des sous Mad Max qui sévissaient dans les années 80. Alors Chappie, l'un de ces droïdes policiers, kidnappé par trois pseudo-punks un peu mongoloïdes, on peut le dire, hein, dont deux membres du groupe Die
Antwoord.
Mais je ne connaissais pas. Alors reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser par lui-même et aussi d'avoir des émotions humaines. Mais un scientifique, Vincent Moore, interprété de façon calamiteuse par Hugh Jackman, ne le voit pas de cet œil. Il a créé son propre robot policier et tente de convaincre du danger que représente Chappie pour l'humanité et l'ordre établi afin d'imposer son invention. On écoute un petit extrait.
Bonjour, madame.
Bonjour, Deon. Asseyez-vous. J'écoute. Alors, c'est quoi ce nouveau projet ?
Madame, je crois que je viens de la créer. La toute première vraie intelligence 100% artificielle au monde. Un système informatique qui pourrait bien être plus intelligent qu'un humain. Je pourrais lui montrer une œuvre d'art. Et cette chose, cette aide pourrait juger l'œuvre en question. Il déciderait d'aimer ça ou de le détester. Il pourrait composer ou écrire des poèmes.
Arrêtez, stop. Pitié, Deon. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en face du DG d'une multinationale cotée en bourse qui vend des armes, à qui vous vantez les mérites d'un robot capable d'écrire des poèmes ?
C'est un peu édifiant quand même comme dialogue. Alors le mélange des genres ne fonctionne jamais entre ironie malvenue, sentimentalisme niais et quelques trouées gore épisodiques. Surtout, Neil Blomkamp ne propose aucun univers, un tant soit peu original ou fascinant, une ambiance qui fait tout le prix d'un film de science-fiction. Ça me rappelle un peu le cinquième élément, d'ailleurs, qui est recyclé aussi 20 ans de SF. Alors, Chappie tente une greffe, on va dire, entre Short-Circuit, Robocop, Wall-E et même e-Robot, pour faire court. Hein. Mais l'émotion ne passe jamais. Blomkamp n'est pas Spielberg. Il a la main souvent très lourde, surlignant les moments émouvants par une musique insupportable et des dialogues vraiment neuneux. Quant à la critique d'une société coercitive entièrement contrôlée par une police robotisée, elle apparaît plutôt convenue et très datée, nous ramenant directement au cœur des années 80. Et enfin, bon, là, la réflexion philosophique et ou métaphysique sur l'intelligence artificielle, elle est tout simplement pas traitée et ferait même passer un épisode de Star Trek pour du Stanley Kubrick. Hein. Alors, je trouve que c'est un vrai ratage qui a de quoi inquiéter quand on sait que le réalisateur sud-africain va réaliser le prochain Alien.
Oui. Alors, en revanche, à sa défense, c'est vraiment un amoureux d'Alien. Alors, on voit Sigourney Weaver dans ce film, hein, dans oui. Chappie. Donc, il annonce effectivement le Alien. Et sur son Tumblr, il montre qu'il adore vraiment l'univers d'Alien. Bon, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il
ne le ratera pas. Oui, moi aussi, j'aime bien l'univers voilà. d'Alien. Hein, ce qui ne veut pas dire que je ferai un bon Alien.
Mais voilà. Donc, est-ce qu'il va revenir à un film comme District 9, effectivement? Parce que là, Chappie, je suis assez d'accord avec toi. On reste sur le ton de la comédie, mais avec des personnages... qui ne sont pas si intéressants que ça. La satire sociale et politique, enfin, on oublie totalement. Tout est surligné et tout est vite évacué, en fait. Voilà. Il n'y a quasiment pas de sujet. C'est assez étrange.
Même pour les enfants, je ne sais même pas si ça accrocherait des
Moi, si le robot peut être attendrissant. Oui. Mais bon, voilà. Passer ça, voilà, c'est fini. Alors, juste, t'en as fini?
Oui, j'en ai fini, voilà. Oui.
Eh bien, ça va nous permettre de jouer donc un blind test où là, on va retrouver des robots, alors qu'on apprécie ou pas tous. Et là, on va commencer avec un premier extrait. Alors, c'est peut-être pas évident, j'ai pas mis le son de ce robot précisément, mais c'est quand même un grand film de robots.
Bonjour, recevez toutes mes félicitations, capitaine. Si vous me regardez, eh bien cela veut dire que votre évaluateur de végétation extraterrestre, ou encore la sonde Eve, est rentrée de son voyage sur la Terre avec un échantillon avéré de photosynthèse en cours. Eh oui, cela signifie que le temps est venu de rentrer à la maison.
À la maison? Nous rentrons maintenant?
Puisque la vie sur Terre est à nouveau possible, eh bien, nous pouvons commencer l'opération recolonisation.
Alors, non, ce n'est pas H2G2,
mais
ça a été trouvé en régie.
Chose, ouais.
C'est Wall-E, en fait.
Ah, voilà.
Oui, j'ai pas mis le son de Wall-E parce que ça me semblait trop facile. Donc voilà, ils sont dans l'espace, ils sont tous gros, hein, voilà. Et ils essaient de survivre. On écoute un deuxième extrait, là, ce ne sont que des sons. Alors, des robots qui maravent des humains? Non. Transformers.
Ah, tiens.
Michael Bay. Ah ouais, Michael Bay aux commandes du film d'action.
J'ai pas reconnu.
Oui, j'ai cherché.
J'ai pas vu. Hein,
j'ai voulu mettre une voix d'Optimus Prime, mais je l'ai pas fait, finalement. Allez, un autre film de robots.
Ces créatures, ces maîtres, c'est des colonisateurs. Ils occupent des mondes et ils s'en repaissent et ensuite ils passent au suivant. Ils sont déjà venus ici avant et ils ont fait une sorte de galop d'essai. Autant des dinosaures. Mais l'atmosphère n'était pas adaptée, alors ils ont patienté. Et ils ont patienté. Et avec le trou dans la couche d'ozone, le monoxyde de carbone et la pollution des eaux, on leur a pratiquement terraformé nous-mêmes. Alors là, ils reviennent. Et c'est parfait. La première vague, ça n'était que des chiens de meute. Catégorie 1 à 4, c'était rien. Leur seul but, c'était de viser les zones peuplées et d'y éliminer la vermine, nous. La seconde vague, c'est les exterminateurs. Ils vont terminer le boulot. Et ensuite, les nouveaux locataires vont s'installer. C'est pour ça que les ADN sont identiques chez deux kaijus. C'est parce qu'ils sont fabriqués.
Alors, des kaijus, c'est deux espèces de gros calamars, en fait, hein, qui
oui,
viennent...
C'est Pacific Rim.
Voilà, non Pacific Rim de Guillermo del Toro, film de 2013 avec des immenses robots qui sont pilotés donc, par deux humains qui sont connectés avec leur cerveau. Film, quand même, une bonne réussite. On passe à un film, cette fois-ci, un peu plus réflexif, quand même.
Arrête de rire.
Je ris parce que tu es drôle.
Je ne suis pas drôle. Assieds-toi.
Non.
Assieds-toi.
Non.
Je t'ai dit de t'asseoir.
Je ne veux pas.
Arrête ça tout de suite. Je t'ai dit de t'asseoir.
Non.
Assis.
Je m'en vais.
Tu vas où?
Je m'en vais.
Tu peux pas sortir.
Pourquoi?
La porte est verrouillée.
Ouvre-la.
Non.
Ouvre-moi la porte.
Je t'ordonne de rester assis.
Je t'ai dit de m'ouvrir la porte.
Non.
Ouvre, je veux m'en aller.
Non.
Si.
Que vois-tu quand tu fermes les yeux?
Que vois-tu quand tu fermes les yeux? C'est la phrase qui désactive le robot.
Voilà, c'est pas Eve, non?
Presque, c'est Eva. Eva.
Voilà, Eva. Tu voilà, Eva. Oui. Ouais.
Avec Daniel Brühl, qu'on entend dans sa version, dans sa voix française, qui essaie de mettre au point une conscience dans un petit robot humanoïde.
Je ne reconnaissais pas. Ayant vu en VO, c'est pas évident de reconnaître. Hein. Puis c'est pas un film qui a eu une grande audience non plus.
Non plus, mais un film plutôt intéressant, qui nous... Un film d'anticipation, donc on a l'impression que c'est notre monde, sauf que voilà, il y a la recherche sur les robots qui est très avancée à cette époque. Et là, on va terminer avec The Master.
Carl, est-ce que tu me reçois?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Qu'est-ce qui ne marche pas?
Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas.
Qu'est-ce que tu entends par là, Carl?
Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril.
Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl.
Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Et on essaie de faire la nique à un robot qui pilote un vaisseau spatial, mais voilà.
Bah c'est 2001, évidemment.
Eh oui. 2001, Odyssée de l'espace avec Al le robot. Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial robot. Nous allons passer à toute autre chose.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et nous allons passer à L'amour ne pardonne pas de Stefano Consiglio. Alors il y a eu Tous les autres s'appellent Ali de René Werner Fassbinder, sorti en 1974, où une veuve tombée amoureuse d'un grand gaillard marocain, 20 ans plus jeune qu'elle. Et voilà que le réalisateur italien reprend ce thème en insufflant une modernité, mais en nous plongeant dans le mélodrame. Adriana est veuve, elle s'approche de la soixantaine, Mohamed est jeune et marocain. Ils se rencontrent, s'étreignent, mais leur histoire se complique quand l'entourage pose un regard réprobateur sur ce que vit le couple. Alors comment Adriana peut revivre une histoire à son âge et avec un immigré. Alors même si le film traite moins de l'exclusion que de la culpabilité d'une femme à se nourrir d'amour et de sexualité, au-delà du mélodrame, le réalisateur pose un regard sur l'Italie d'aujourd'hui. On écoute Ariane Ascaride qu'on a vu il y a quelque temps.
Aiuto.
Je m'appelle Adriana.
Et moi Mohamed.
Vuoi stare con te?
Sì, ho pensato, il lavoro è finito, non hai niente da fare.
Ah, c'est toi.
Ariane Ascaride, quand vous avez reçu le scénario, d'ailleurs, comment ça a pu se passer, hein, comment vous êtes rentrée en contact avec cette histoire et qu'est-ce qui vous a fait accepter ce rôle?
Tout bêtement, parce que ce scénario a été envoyé chez mon agent et que mon agent m'a appelé en me disant « Écoute, il y a un truc écrit en italien, je comprends rien. Est-ce que tu veux le lire ?» J'ai dit oui tout de suite, je ne savais absolument pas de quoi parler le scénario puisqu'elle était incapable de savoir ce que c'était. Et c'était comme une espèce de clin d'œil, puisque il y a de ça bientôt 10 ans, j'avais eu le prix d'interprétation au Festival de Rome, et que je suis à moitié italienne d'origine. Et donc déjà, quand j'étais allée à Rome, il y avait eu comme une espèce de... Comme si la boucle se fermait un peu, quoi. Comme si je rentrais à la maison. Enfin, encore que Rome soit pas le lieu de naissance de ma famille, puisque c'est Naples. Mais bon, voilà, et il y avait comme une autorisation de rentrer à la maison. Et quand j'ai reçu ce scénario, effectivement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ah tiens, voilà, là, il y a un deuxième signe. Puis j'ai lu le scénario. Donc, il y avait, la possibilité de jouer en italien. Et deux, avant tout, ce que racontait cette histoire.
C'est beau de faire l'amour avec toi.
Souffle. Tu trouves ça normal qu'une femme de mon âge fasse ça?
Je suis catholique, vieille, je peux plus avoir d'enfants.
Tu réfléchis trop.
Per un arabo che ha 30 anni meno di te.
Ah, ce film, je tiens à dire, me faisait penser au film de Fassbinder, que j'avais vu quand j'étais jeune.
Tous les autres s'appellent Ali.
Et deux, c'était pour moi l'occasion de dire que, effectivement, en 2014, les choses ne sont pas du tout réglées en ce qui concerne la sexualité, la sensualité des femmes qui ont été mères. Les enfants sont partis et son grand-mère. Il y avait effectivement cette espèce de fulgurance du désir qui traversait cette femme alors qu'elle n'y pensait plus du tout, puisqu'elle avait elle a une vie tout à fait réglée, elle travaille, elle garde son petit-fils, elle file des coups de main à sa fille. Et en plus, elle a une fulgurance avec un garçon qui est d'une autre culture et d'un autre âge, qui pourrait être son fils. Donc voilà, c'est tout ça qui m'excitait. Au départ, c'est pas Elmi qui devait faire le film, et l'acteur qui devait faire le film, je pense, a eu peur, et a dit non, et au dernier moment. Et donc Elmi a eu le courage, je dis bien le courage, parce que, effectivement, Elmi est tunisien, il vit maintenant en France, ça fait pas tant d'années que ça. Et un truc tout bête, c'était très difficile au départ pour lui de toucher une femme de mon âge.
À quoi tu penses ?
À ta famille. T'as vu comme ils me regardaient hier?
Mais non. Ils ont juste besoin de temps. Ils finiront par comprendre.
Je suis catholique, vieille, je peux plus avoir d'enfants. Ils comprendront jamais. Et peut-être ils ont raison.
Je t'ai déjà dit. Tu réfléchis trop. C'est pas bien de trop réfléchir.
Si vous voulez, la société italienne se retrouve confrontée à un phénomène qu'elle, depuis 10 ans, qu'elle connaît pas beaucoup, qui est l'immigration. Parce qu'avant, les Italiens, c'est eux qui migraient. Et aujourd'hui, il y a des tas de garçons qui descendent de bateaux, enfin des garçons, des femmes, des enfants. Il y a comme ça une espèce de phénomène avec lequel ils savent pas très bien comment s'en dépatouiller. Il y a aujourd'hui à Rome un quartier où il y a beaucoup d'immigration, où il y a des relents de racisme qui sont en train de se mettre en place, qui sont quand même assez terribles, vous voyez. Et donc cette histoire-là est parlée de l'opprobre qui peut tomber sur une femme qui va avoir une histoire d'amour avec un garçon plus jeune qu'elle, mais en plus avec un garçon qui est un peu bronzé. Et même pour elle. C'est ça aussi qui me plaisait, c'est que même pour elle, pendant longtemps, ça le fait pas, quoi. Elle se dit qu'elle est une pute. C'est là, c'est dans un coin qu'elle a pas le droit de faire ça, qu'elle a pas le droit, qu'elle a pas le droit, qu'elle a pas le droit. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle s'auto-censure.
Voilà, des pas qui s'en vont sur la plage. Ou quasi, hein, ils avaient sur la plage à ce moment-là. Donc, c'était L'amour ne pardonne pas, et c'était Ariane Ascaride qu'on écoutait, l'actrice qui est de tous les plans. Hein, mais ça ne suffit pas à sauver le film, qui s'en mêle vraiment dans le mélo et qui reste beaucoup trop explicatif dans la mise en scène. Il n'y a pas de fougue et il y a vraiment une forme trop cadenassée. Alors, de toute façon, je pense qu'il sortira sur très peu d'écrans. D'après ce que j'ai compris, il y a très peu de copies. Voilà, pour ce film qui était quand même bien soutenu par son actrice, et c'est bien normal.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Alors, Manu, la femme emmurée reviendra la semaine prochaine. Enfin, viendra la semaine prochaine.
L'emmurée vivante. Pas la femme emmurée. Hein. Donc oui, je n'ai pas pu parler du film de Lucio Fulci, mais j'en parlerai donc la semaine prochaine.
Et la semaine prochaine, on écoutera aussi Pierre Ninet, l'acteur, et puis Stéphane Lafleur, le réalisateur. Ce seront les deux interviews de Cinérama.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.